Chelou.
Dans ce journal, on vous parle de la rentrée qui approche à grands pas. On ira aussi en mer et puis il y aura une grosse page sport en fin de journal avec du surf, de la danse et des acrobaties. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Plus qu'une semaine avant la rentrée.
Oui, les élèves du Fénois reprendront les bancs des écoles, collèges et lycées entre lundi et mercredi prochain. Mais c'est déjà la fin des vacances pour les équipes pédagogiques qui ont reçu il y a quelques jours la traditionnelle lettre de rentrée de leur ministre de l'Éducation. Un nouveau ministre, Rony Terry-Ipaya, nommé pour porter l'ambitieux programme éducatif du Tavigny. Alors il promet dans cette lettre de pas moins de 8 pages de ne pas faire table rase du passé, mais fixe tout de même ses grandes priorités, à commencer par une meilleure intégration dans l'école polynésienne de l'identité, l'histoire et surtout les langues locales, Charlie René.
Oui, c'était un des axes principaux du programme Bleu Ciel en matière éducative et pour le concrétiser, Rony Terry-Ipaya veut généraliser la pratique scolaire du Himéné, de la maternelle au lycée, veut travailler directement avec les inspecteurs pour faire entrer davantage dans les programmes la culture, la géographie et bien sûr l'histoire polynésienne des grandes migrations au nucléaire en passant par le fait colonial. L'ancien instituteur, premier agrégé du pays en tahitien, annonce aussi la création d'une task force d'experts chargé de développer l'école immersive où une partie des enseignements sera directement menée en Reomaui. Le bilinguisme contribue au développement des élèves, insiste le ministre, qui demande dès à présent au directeur de créer un écosystème plus favorable aux langues locales dans leur établissement.
Et beaucoup d'autres thématiques sont abordées dans cette lettre, notamment celle de la réforme nationale des collèges qui s'appliquera bien, comme celle du lycée pro. Le ministre de l'Éducation veut d'ailleurs développer davantage la filière professionnelle et pré-professionnelle, l'apprentissage. Il annonce aussi des heures de cours de soutien et de devoir dans les emplois du temps, des stages de remise à niveau en fin de vacances. Il insiste aussi sur la lutte contre le cyberharcèlement, Charlie.
C'est même une mobilisation générale qui s'annonce avec des temps de sensibilisation obligatoires dès le début d'année, des programmes d'ambassadeurs contre le harcèlement, de nouveaux dispositifs pour permettre aux victimes de s'exprimer. Les numéros et adresses de signalement seront désormais affichés dans toutes les classes et les lieux de vie scolaire et de nouveaux espaces d'écoute Margaret's Place seront ouverts dans plusieurs établissements. Rony Terry-Ipaya en profite pour annoncer une plus grande place de la famille dans le système scolaire, plus que de la coopération parents-prof. Il parle de coéducation, Valdemar.
Et cette lettre de rentrée se termine sur une promesse, celle d'un grand plan Marshall de la rénovation des bâtiments scolaires polynésiens, dont les contours et les financements doivent être annoncés en fin d'année 2023.
Mobilisation en mer samedi après-midi.
Ouais, le GRCC a dépêché un avion gardien pour rechercher un marin d'un bateau de pêche polynésien qui est tombé à la mer au nord de Rangiroa. Hier, ce sont même 3 bateaux de pêche, un gardien donc et un autre navire de commerce dérouté qui ont balayé une zone d'environ 3000 km². Le disparu n'a pour l'heure pas pu être localisé. Un peu plus tôt dans la semaine, c'est un casin qui avait été envoyé vers l'atoll de Nio pour retrouver un homme de 37 ans qui se serait a priori fait emporter par une vague dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'il pêchait à la canne. Une opération qui là aussi n'a pas permis malheureusement de retrouver le disparu. Elle a été interrompue en raison de la météo alors qu'une cérémonie en la mémoire de la victime s'est tenue sur l'atoll samedi.
Et toujours en mer, on vous parle de ce projet fou.
Oui, on vous parle de Gustave et Piet Wittewrangel, 84 et 75 ans. Ce sont deux frères belges. Ils souhaitent retourner aux Marquises avec le voilier que Jacques Brel avait utilisé pour s'y rendre en 1974. Alors ils l'ont récupéré il y a 15 ans à l'état d'épave en Nouvelle-Zélande et l'ont depuis remis au goût du jour. Et depuis juin, le bateau de 20 mètres qui pèse 40 tonnes, qui s'appelle l'Ascoy 2, eh bien, il a été sorti de son hangar pour les derniers travaux dans la cabine avec l'aménagement d'une cuisine. Désormais, la coque rouge et bleue semble comme neuve et sa première remise à l'eau, maintes fois retardée par les aléas du chantier, est désormais programmée pour septembre. D'ici là, le bateau doit encore retrouver ses deux mâts, des voiles, un peu d'accastillage. Mais les deux frères ne rêvent déjà que de le faire de nouveau voguer sur un océan. Et l'idée de suivre les pas du chanteur vers les Marquises est bien sûr dans tous les esprits. Un reportage à retrouver sur notre site radio1.pf.
Et on vous présente cette entreprise Polyyacht.
Oui, la société locale qui a inauguré un nouvel atelier de production vendredi. Elle est spécialisée dans les haubans textiles en Dynema. Alors ce sont des câbles de gréement plus légers et plus écologiques dont l'entreprise a réussi à industrialiser la fabrication. On écoute Jean Pagny, associé de Polyyacht.
Il y a plusieurs innovations dans notre produit, mais l'innovation principale, c'est la manière dont on va fabriquer. Parce que les haubans en Dynema, ça existait déjà auparavant, mais les techniques de fabrication étaient la plupart du temps artisanales, manuelles, ou alors ils n'arrivaient pas à enrouler le fil dans la gaine, ce que nous, on a réussi à faire. Donc l'innovation, c'est de réussir à enrouler du fil Dynema à l'intérieur d'une gaine de protection pour avoir un hauban qui est complètement protégé de bout en bout directement en sortie de machine. Donc on a réussi à industrialiser le process et on a réussi à le faire en ayant le moins de matière première possible.
Et l'entreprise polynésienne est déjà à l'assaut du marché européen. Elle souhaite rendre accessibles ses câbles à tous les navigateurs.
Notre objectif, c'est de donner accès à n'importe quel propriétaire de voilier à un produit haut de gamme, un produit performant, donc les haubans textiles, qui aujourd'hui sont plutôt réservés à des gens qui vont chercher vraiment la performance et dont les moyens financiers ne sont pas nécessairement un problème. Ben nous, on a pris ce type de matériel-là et on veut réussir à l'industrialiser, ce qu'on a réussi à faire, pour pouvoir y donner accès à tout le monde à ce produit-là.
Et l'entreprise a également un autre projet en cours, Cocorig. Il s'agit cette fois de remplacer les cordages plastiques utilisés dans les fermes perlières par des cordages naturels en fibre de coco. Un nouveau produit soutenu par le programme Protège et l'ADEME qui devrait être sur le marché dès 2024.
Matteo Amoretti prend la deuxième place au Hawaii San Diego.
Oui, il y a 10 ans, Matteo, qui s'est découvert une passion dévorante pour le Ori Tahiti, a participé à sa première compétition hors du territoire. Samedi et dimanche, donc au Hawaii San Diego, il a remporté la deuxième place du concours de danse solo dans la catégorie des 7-10 ans de niveau avancé. Alors aisément qualifié pour la finale lors des éliminatoires samedi, malgré une ambiance de stade à l'américaine qui change un peu, Matteo Amoretti s'est adjugé donc la deuxième place. Il avait été découvert en 2022 lorsqu'il avait remporté la finale des championnats du monde solo de Ori Tahiti. Matteo disputait là donc sa première compétition hors du Fenua, une compétition qui juge les danseurs notamment sur leur capacité à improviser, qui a été doublement difficile pour Matteo puisque le jury, qui était composé notamment de Polynésiens, lui a demandé ainsi qu'à un jeune concurrent américain de danser une seconde fois pour les départager. Des prestations de moins de 2 minutes mais particulièrement intenses pour les danseurs qui veulent démontrer leur connaissance du Ori, leur maîtrise des pas et leur qualité créative. Matteo, qui a beaucoup appris de ses parents anciens sportifs, il sait qu'on ne gagne pas à tous les coups,
on enlevait son costume, on attendait les résultats. Au dernier moment, il y a la responsable de la compétition qui est venue nous voir en disant « Quelle heure vous avez votre avion ?» parce qu'il faut que Matteo redanse. Et donc, on a remis le costume en 2 secondes et il a dû représenter encore une improvisation. Tout à l'heure, il m'a dit « Maman, en fait, je suis un peu content quand même parce que moi, ça va me permettre de me battre pour progresser et gagner la prochaine fois. »
Voilà, la mère de Matteo, micro de Caroline Perdry. La préoccupation du jeune homme aujourd'hui est sa prochaine rentrée des classes en CM2. Il compte bien reprendre la danse traditionnelle. Sa famille lui remercie tous les soutiens qui ont contribué à sa cagnotte et à son voyage.
Et du surf, Matai Drolé rejoint le main event de la Tahiti Pro.
Et 32 surfeurs locaux avaient rendez-vous hier à Teahupo'o pour les trials de la Shiseido Tahiti Pro. C'est le nom du sponsor cette année. Et c'est donc Matai Drolé, 25 ans, qui a décroché son ticket pour le tour principal. Il rejoint deux autres Polynésiens, Kaoli Vast et Vaine Fiero, qui ont déjà eu une wildcard. Alors dimanche, ça a été une belle journée avec de très grosses conditions et le surfeur de la presqu'île a remporté la compétition au terme d'une finale de haut niveau contre un autre résident de la zone, Aimeo Cermak. Et ce sont deux spécialistes des vagues puissantes qui ont chacun notamment obtenu un 10 en finale. Ils finissent avec 19,6 points pour Matai, 18,17 pour Aimeo. Matai Drolé, qui avait été 2 fois demi-finaliste de ses trials, finaliste l'an passé. Il a déjà participé au main event de la Tahiti Pro, c'était en 2019. Alors, la compétition va débuter en cette fin de semaine, mais dans des conditions un peu moins forte que ce week-end, c'est ce qui est attendu en tout cas. Matai Drolé devrait être opposé au numéro 1 mondial Philippe Toledo dès le premier tour. Vaine Fiero, elle devra composer avec la numéro 1 mondiale également, la Hawaïenne Carissa Moore, en plus de la Brésilienne Tatiana Weston-Webb, tandis que Kaoli Vass fera face au Sud-Africain Jordi Smith et au numéro 2 mondial Ethan Ewing. Ethan Ewing qui l'avait éliminé l'an passé pour se hisser en finale de cette même compétition.
Et on reste en surf, non pas pour parler de la Tahiti Pro, mais de l'épreuve olympique prévue l'an prochain.
Oui, on vous parle du logement des différentes délégations. Une convention sera signée mercredi entre la Ranui et les organisateurs des Jeux. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, les athlètes participant à l'épreuve de Teahupo'o, mais aussi certains entraîneurs et préparateurs, ne seront pas logés à terre, mais bien sur le bateau de croisière. Le choix de ce cargo n'est pas une surprise. De par ses dimensions, ses capacités et sa disponibilité, il est rapidement apparu comme le plus adapté des navires basés à l'année en Polynésie pour remplir cette mission olympique. Mais la Ranui n'accueillera pas à son bord toutes les délégations de cette épreuve, puisque certaines équipes avaient préféré prendre les devants. Ainsi, la France, les États-Unis et le Brésil ont déjà depuis de longs mois réservé des logements chez des particuliers et dans des structures habituées à recevoir des surfeurs de la presqu'île, ce qui a été d'ailleurs accepté par le comité olympique. Donc s'ils ne dormiront pas tous au même endroit, les athlètes partageront le même village olympique qui se dressera comme prévu sur le domaine rose après la passerelle actuellement en reconstruction du PK0.
Et on parle acrobatie pour finir.
Oui, et plus précisément d'un street workout event qui aura lieu ce week-end au parc Paofei. Cette discipline allie gymnastique et technique de musculation, elle est très populaire dans le monde et se développe encore timidement au Fenua. Depuis son événement à Tahiti en 2014, ce sport de rue trouve son public progressivement et quelques compétitions amicales ont déjà été organisées. Mais cette fois, le petit succès des éditions des Tahiti Street Workout, les athlètes veulent donner une dimension plus officielle à la rencontre avec la première édition donc de la Tahitian Technique Cup. C'est une compétition totalement organisée sur des fonds privés qui s'étalera sur 2 journées. C'est ouvert à tous et à tous ceux qui veulent fédérer les férus de la pratique. On entend les précisions de Itiari Castellani, l'organisateur. Il est au micro de Vaiti carré Pereire.
Je fais ça vraiment pour développer la communauté parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gros événements, de grosses compétitions. Et aussi maintenant, il y a des organismes de l'extérieur qui m'ont contacté, la Fédération de la Nouvelle-Calédonie, qui souhaite faire venir des athlètes de l'extérieur. Du coup, il était important de déjà lancer l'événement local pour ensuite développer ça après, pouvoir accueillir après des athlètes de l'extérieur.
Voilà, et les amateurs échevronnés qui souhaitent repousser leurs limites peuvent encore s'inscrire. Retrouvez davantage d'informations sur notre site radio1.pf. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir écouté. Le retour de l'actualité, c'est à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup, Charlie.
Deux fois aujourd'hui.